veste de méchanceté. Potion maléfique. Des interviewés. Et aussi des crottes de nez. Des thèmes variés. De l'absurdité. De l'absurdité. De l'absurdité. Des portraits. Un soupçon d'actualité. Une louche de solidarité. Des reportages bien montés.
Bonjour, bonjour, il est 17h05 et vous êtes à l'antenne de Radio Canu, la plus rebelle des radios, sur le 102.2 FM, et c'est Lilith, Martine et les autres. Alors aujourd'hui, eh ben, c'est une émission Méli-Mélo. Donc d'abord, on va accueillir Élise et Carole qui vont venir nous parler de leur projet du lycée autonome et autogéré de Lyon. Ensuite, on fera un petit point sur ce qui se passe au Rojava. Donc Rojava, c'est c'est le Kurdistan syrien. Et enfin, on écoutera un reportage sur un crew de meufs qui rebaptisent les noms de rue la nuit. Alors, on accueille Élise et Carole. Eh ben, Élise, Carole, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et donc, vous allez nous parler de votre projet. Alors, dites-nous déjà le beau nom de ce projet.
Donc, c'est le LYALY, L-Y-A-A-L-Y, donc, c'est-à-dire le lycée autonome et autogéré de Lyon.
Et c'est né quand cette idée, ce projet-là ?
Alors, ça a commencé par des personnes qui se sont rassemblées à partir de janvier 2013. Et en septembre 2013, donc il y a un peu plus d'un an, on a créé l'association, donc l'association des amis du LYALY. Et on fait partie donc de ce projet avec Carole depuis cette date-là, depuis septembre 2013.
Ok, donc là vous êtes constituée en association.
Oui.
Et du coup, il y a combien de personnes ? Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le profil des gens qui participent à cette...
Donc actuellement, on est à peu près une dizaine de personnes vraiment à venir à toutes les réunions. Il y a eu pas mal de passages. On est essentiellement des femmes, après d'âge et de profession très très différentes, mais surtout des professeurs et éduques, voilà, qui se réunissent donc une fois par mois à la Griffe.
Donc la Griffe, c'est la librairie anarchiste de Lyon, qui est située à la Guillotière, rue Sébastien Griffe. Et donc du coup, c'est un projet qui est lié à l'éducation, parce que c'est un lycée autogéré. Et c'est venu de quel constat, cette idée de créer un lycée autogéré ?
Eh ben c'est des constats chacune et chacun un peu perso en fait dans nos boulots, dans nos vies qui nous ont rassemblés, notamment par toute la souffrance en fait qui peut être vécue par les profs ou par les jeunes, puisqu'on est des professeurs ou des gens qui accompagnons en fait les jeunes en difficulté. Donc on se rend compte que ce qui est proposé par l'éducation nationale ou autre n'est pas forcément adapté à ces jeunes aujourd'hui, qui ça peut générer pas mal d'exclusion, d'inégalité, ou du coup des jeunes qui se sentent pas mal esselés par ce système-là. Donc on voulait proposer, nous, un petit peu réfléchir ensemble à proposer quelque chose de différent.
Ouais. Ok. Et vous disiez juste tout à l'heure, tu as dit vous êtes des profs, des éducs, est-ce qu'il y a d'autres professions, entre guillemets, professions qui sont représentées ou autres profils, autres parcours de personnes ?
Alors on a eu pas mal de passages, donc on a eu une bibliothécaire par exemple, une comptable, on a eu aussi qui est venue. Donc c'est plus des gens qui sont un peu intéressés par ça, parce que par leur entourage, par ce qu'ils constatent aussi, je sais pas, au niveau des fois de leurs enfants, au niveau de leurs collègues qui sont intéressés par le projet. Et il y a eu aussi des étudiants qui sont actuellement en recherche eux-mêmes d'un système pour se réorienter et qui ne trouvent pas le lieu, en tout cas pour répondre à leurs questions.
Ok. De toute façon, on reviendra après sur comment vous vous organisez, c'est ouvert à qui justement, et puis il faut préciser un peu le contact, comment est-ce qu'on peut vous joindre et tout ça. Mais avant, expliquez-nous le projet, l'essence du projet, j'ai envie de dire.
C'est autogéré. Assez rapidement, parce que c'est un gros, gros projet, mais en fait, tout est un peu dans le nom. Le LYALY, donc ça veut dire lycée, donc lycée, ça veut dire un lieu à partir de 16 ans. Ça, c'est surtout pour que légalement, on n'ait pas le problème de l'obligation scolaire. autonome.
Donc attends, ouais, problème l'obligation scolaire, c'est-à-dire que
ça veut dire ouais, que pour l'instant dans la loi, en tout cas en France, les enfants jusqu'à 16 ans sont obligés d'aller à l'école. Donc du coup, on cherche un lieu où il n'y ait pas ce souci d'obligation scolaire pour que le jeune qui fréquenterait ce lieu ne vienne sur le volontariat, en fait, qu'il n'y ait pas ce flicage un peu de ses absences, tout ça. Donc un peu pour se dégager cette contrainte-là. Après, autonome, c'est surtout par rapport justement à l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale propose quand même, enfin impose plutôt que proposer, la notation, par exemple, obligatoire, qui pour moi est un gros problème, parce qu'il met en compétition les gens, et puis je pense qu'on n'est pas obligé d'être noté pour comprendre les progrès qu'on fait sur sa vie, quoi, sur son. Et puis ne pas dépendre non plus des programmes, parce que c'est pareil, la densité des programmes ne permet pas aux professeurs et aux élèves d'avancer à leur rythme et de pouvoir aller plus loin et approfondir certaines questions. Et donc on est toujours dans la course et un peu une usine du coup au savoir, et que finalement si on pouvait un peu se dégager des programmes, parce que tout n'est pas mauvais dans les programmes, mais disons pas avoir cette espèce de rendement obligatoire à la fin de chaque année scolaire. Ensuite, pour l'autogestion, donc c'est parce qu'on aimerait bien du coup fonctionner en collectif. Et un collectif donc égalitaire, que ce soit les intervenants ou les jeunes qui fréquentent le lieu, que tout le monde participe de manière égalitaire du coup aux tâches, rien que des entretiens des locaux, donc que ce soit le ménage, même refaire la peinture d'un lieu, si on peut dans l'idéal un potager, que tout le monde pareil puisse participer à ça, même au niveau de la nourriture, préparer à manger, le service, tout ça, qu'en fait ce soit quelque chose de maximum d'auto gérer pour la structure, quoi, au sein même du fonctionnement de la structure. Okay. Vivre en collectivité, quoi.
Et du coup, vous distinguez pas, les profs ou les éducs ou les gens qui montent ce projet, puis ensuite qui animent ce projet, comment vous les voyez là-dedans? C'est quoi leur rôle vis-à-vis des personnes qui sont accueillies? Parce qu'il y a quand même des accueillants et des accueillis, entre guillemets, dans votre projet.
C'est plus un rôle d'accompagnant, en fait, de travailler avec le jeune qui vient pour son projet, en fait, à lui perso, et qui va demander ou nous on va proposer en tout cas un accompagnement le plus individualisé, en fait, avec un jeune qui peut venir s'il a envie juste participer au collectif, ou s'il veut après lui apprendre certaines choses ou orienter sa formation vers après s'il veut passer le bac aussi, ou enfin voilà, vraiment faire quelque chose d'adapté, et avec des adultes intervenants référent, en fait, qui accompagne le jeune jusqu'au bout de son projet.
Ouais, donc le nom plus que prof ou éduc, ça serait même vous le voyez comme ça, référent.
Voilà, c'est ça, serait plus un intervenant qui aide, épaule le jeune dans ses démarches, mais qui au point de vue du collectif est vraiment au même titre que le jeune. Enfin, je veux dire, là sur ce point de vue-là, tout le monde a le même rôle dans la structure, en fait.
Égalité. Et alors du coup, moi j'ai une question sur parce que souvent, donc quand on entend parler de projets autogérés ou bien d'écoles alternatives, alors ça peut porter plusieurs noms, ça recouvre pas forcément les mêmes réalités, mais par exemple les projets Montessori, les projets Steiner. C'est souvent la critique qui leur est faite, c'est que ça s'adresse à un public finalement assez privilégié, parce que déjà c'est pas forcément gratuit l'accès, c'est pas forcément en ville. Et du coup, ça, comment, c'est quoi vous votre public cible, entre guillemets, si vous en avez un, et comment vous répondez à cette question-là, quoi?
On n'a pas forcément un public cible, en fait. On voudrait que ça soit le plus large possible pour que chacun qui a envie de trouver à un moment donné un petit quelque chose, ou un projet, ou un accompagnement, ou même des apprentissages, puisse venir, et que le public soit assez large. Donc c'est pour ça aussi qu'on voudrait rester en ville, faire quelque chose d'urbain pour l'accessibilité, que tout le monde puisse en transport ou autre s'y rendre, et ouvrir à tout jeune ou moins jeune d'ailleurs, sans limite d'âge, en fait, l'accueil, en fait, au sein de ce lycée.
Et du coup, vraiment un établissement à ce moment-là complètement gratuit, quoi, que ce soit pas juste déjà les enfants de militants, que les gens qui sont déjà un peu dans le milieu alternatif. Donc vraiment essayer de au maximum ouvrir du coup ça se part en parler aux gens, quoi, faire beaucoup de communication par rapport à ça, et vraiment la gratuité, pour que ce soit pas que les personnes qui aient les moyens financiers d'avoir accès à ce genre de structure, quoi.
puis aussi dans les dans l'accompagnement que vous proposez, que ça réponde à des besoins, enfin par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Élise, du fait que c'est aussi d'avoir vu des gens qui étaient en difficulté ou qui étaient pas.
Oui, je voulais rebondir aussi là-dessus en disant que effectivement ce que c'est ce que je peux constater personnellement, c'est que des jeunes en rupture pour diverses raisons ou en décrochage ou même carrément exclus du système scolaire, il y a des fois on est bien content à 16 ans de leur dire ah bah vous avez, on n'est plus obligé de vous prendre, alors vous allez vous débrouiller, et je trouve que ces jeunes-là c'est important de pouvoir leur proposer quelque chose d'autre et quelque chose qu'ils n'aient pas connu avant et qui pourrait peut-être les raccrocher un peu à quelque chose qu'ils peuvent ne serait-ce que participer en fait à la vie du collectif, même si c'est pas forcément prendre des cours, s'asseoir et tout ça, justement qu'ils puissent se dire eh ben j'y vais et puis aujourd'hui je vais passer du temps là, faire à manger ne serait-ce que ça, on se dit que c'est déjà un petit quelque chose et que c'est ça aussi qu'on veut proposer à des jeunes en difficulté.
Ok. Alors du coup, un truc dont on n'a pas du tout parlé, c'est aussi comment concrètement, quelles actions vous avez déjà menées et c'est quoi votre rythme de rencontre? Qu'est-ce que vous faites pendant les fois où vous vous voyez entre vous, votre association, quoi, votre collectif?
Eh ben, on se réunit, donc, si on disait, une fois par mois, tous les troisièmes jeudis de chaque mois à 19h, donc à la librairie La Griffe. On se réunit pour un petit peu discuter de tout ça, du projet, des fondements du projet, de ce qu'on veut défendre, de ce qu'on veut mettre en place. Et puis aussi un peu pour se renseigner sur ce qui existe déjà, ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, pourquoi ça a pas fonctionné. Donc par exemple, on est allé visiter le LAP, le lycée autogéré de Paris. Il y a quelqu'un qui est venu parce qu'il est professeur dans un collège autogéré, donc il est venu nous présenter qui ferme là cette année, mais du coup justement nous expliquer pourquoi ça a pas fonctionné. On a des gens de Barcelone qui sont venus aussi, qui sont un peu qui cherchent à monter une école autogérée à Barcelone, donc qui sont venus, enfin qu'on a rencontré aussi pour voir un petit peu eux quel était leur projet, comment ils mettaient ça en place. Donc voilà, prendre un petit peu des infos à droite à gauche, inviter des gens, nous aller voir des gens et puis réfléchir. Et en ce moment on écrit le projet qu'on voudrait après un peu diffuser, donc ça nous prend pas mal de temps en réunion aussi sur l'écriture du projet, les grandes lignes, les idées fondatrice, tout ça.
Ouais, vous êtes vraiment d'accord sur un truc avant d'agir ou d'ouvrir votre lieu, quoi.
Ouais.
Et du coup, par rapport à ça, vous, à long terme, comment vous le voyez, ce projet, au niveau de l'accueil, les horaires, le lieu, les financements, enfin, est-ce que les trucs assez concrets comme ça?
Alors, dans l'idéal, on aimerait effectivement que ce soit un lieu d'accueil permanent, en fait, qui soit ouvert tous les jours, qui fonctionne. Alors, pour le moment, comme on est allé voir un petit peu au lycée autogéré de Paris, qui fonctionne depuis un moment, qui fonctionne pas trop mal, on prend un peu appui sur comment eux, ils peuvent fonctionner, entre les horaires de cours, les horaires de fonctionnement du collectif, donc sur un emploi du temps un petit peu à la semaine ou voire un peu. Du coup, on voit ça avec, en s'appuyant sur ce que eux ils font, sur ce qui existe déjà. Et puis la question du financement, c'est une grande question. On est pour l'instant un peu dans l'idée d'appel aux dons, de mécénat, de choses comme ça pour être libéré justement de toute contrainte de subvention ou du coup d'obligation de programme, enfin ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, donc plutôt des mécénats ou des choses comme ça. Et à long terme, comme on imagine quelque chose d'ouvert tout le temps, ça veut dire qu'on imagine des gens salariés qui travaillent là à plein temps. Et puis dans l'idée même, on a abordé nous entre nous l'idée de pouvoir financer aussi les jeunes, enfin les gens qui viennent aussi parce qu'ils font participer aussi, enfin ils font partie du collectif. Et puis parce que si on veut faire des études aussi aujourd'hui, ça veut dire que faire des études, travailler, c'est toujours un petit peu compliqué, donc pouvoir aussi se dégager de cette contrainte-là. Et puis en ayant aussi l'idée de, via l'autonomie et l'autogestion, que ce soit un lieu qui ait moins de dépenses possibles, en fait, en faisant de la récup, un potager, se faire à manger. Enfin, ça veut dire qu'il y a aussi tous ces financements-là qui ont moins lieu d'être, en fait.
Ouais, c'est une grosse ambition, quoi. Alors du coup, moi j'avais une dernière question, puis après vous rappellerez bien quand même le contact, qui vous invitez, qui c'est ouvert à qui, votre association, votre projet, votre groupe. C'était sur la question des apprentissages, parce que du coup vous le présentez comme un lycée, donc c'est pas un foyer, c'est pas un lieu d'accueil pour les jeunes, enfin je veux dire c'est un lycée quand même, donc je pense que la question de l'apprentissage elle est quand même au centre de votre projet, en tout cas j'imagine.
Complètement. Du coup nous on parle surtout d'un apprentissage basé sur l'interdisciplinarité. Moi personnellement, donc je suis professeur d'art plastique et je constate qu'aujourd'hui il y a un gros souci par rapport à ça. Moi, j'ai qu'une heure par semaine mes classes, qui sont entre 25 et 30 élèves. Donc, on se sent hyper seul en tant que professeur. Et puis, les élèves, ils comprennent pas forcément le lien qu'il y a entre les différentes disciplines. Et en plus, il y a du coup cette barrière, le prof seul face aux élèves. Donc, il y a quelque chose de l'autoritarisme qui est hyper gênant. Alors, l'idée, ce serait vraiment de travailler plusieurs intervenants avec des groupes de jeunes où chacun peut un peu y trouver sa place, des recherches communes. Ça peut même être des jeunes à des moments qui proposent aussi des choses. Mmh. Et donc faire vraiment des liens entre les matières, donc créer des connexions. Et puis arrêter aussi de, enfin l'éducation nationale, en tout cas dans les programmes, c'est on est un peu toujours à se baser sur des situations à problèmes concrets de toutes pièces. Donc là, ce serait vraiment peut-être plus aborder aussi des choses de l'actualité, des choses concrètes, quoi, parce que des problèmes il y en a déjà plein. Et donc essayer de répondre ensemble à des choses, voilà, plus concrètes, quoi. Et donc du coup travailler sur plus des grosses plages horaires, quoi, sur peut-être des journées complètes sur un thème avec où là on mélangerait toute matière confondue qui pourrait y répondre, quoi. Après chaque intervenant avec sa spécialité peut compléter ce que quelqu'un d'autre a comme spécialité, quoi. C'est vraiment sur l'entraide, chacun apporte ce qu'il sait, et puis voilà, pas cloisonner en fait chaque matière.
Ouais, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des lieux d'apprentissage un peu en soi, quoi, le fait que ce soit assez collectif comme démarche. Enfin, je sais pas si.
Ouais, non, voilà, c'est ça.
Apprentissage que tu pourras pas faire à l'école, en tout cas, parce que vous parliez de potager, vous parliez de cuisine, vous parliez de repeindre les murs.
Oui,
là,
bah c'est. Oui. Ah voilà, c'est ça, c'est que là du coup concrètement, je veux dire, bon bah voilà, on va quelqu'un il veut se former en électricité, bon bah très bien, mais sauf que du coup bah dans le lieu, il y a un moment l'électricité elle fonctionne. Donc voilà, concrètement, on met en place des choses qui sur le long terme, quoi, qui existent, qui pas faire jouer à l'électricien, quoi. Enfin, ou des choses peu importe, quoi, vraiment essayer d'aller au bout, en tout cas, des
ouais,
choses, quoi.
La démarche. Et après l'autre truc qui est intéressant, c'est quand même vous êtes pas que des profs, parce que du coup parfois même, je pense, dans les profs qui ont des sensibilités de vouloir créer des choses alternatives, mais il manque toujours d'autres regards, parce que c'est quand même plus global, votre vision.
Ah oui, non, c'est carrément ouvert à tout le monde, et justement, et c'est ce qui fait la richesse, en tout cas, du collectif et des réunions, et c'est que justement, on n'est pas tous des profs un peu déjà endoctrinés dans quelque chose, et c'est bien, ça permet vraiment d'avoir plein de points de vue différents, et c'est ça, parce que bah, la société, elle est faite de plein de gens différents, voilà, donc avec nos expériences personnelles. Et du coup, c'est comme ça ouvre vraiment les possibilités, quoi.
Et bah du coup, peut-être on va bientôt se quitter, mais peut-être rappeler justement vos dates de réunion, où vous vous réunissez, est-ce que vous avez un contact, et puis on redit donc que c'est ouvert à toutes les personnes qui sont intéressées par un projet comme ça, et il n'y a pas besoin d'être ni même prof, ni même éduc, ni même pour y participer, quoi. Alors redites-nous tout, et puis les événements peut-être à venir.
Ouais, et ben je vais faire ça. Donc on se réunit les 3e jeudi de chaque mois à la librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe à Lyon. La prochaine réunion, elle se tiendra le 20 novembre à 19h à La Griffe. On va faire un concert de soutien le 8 novembre à la Gueule Noire à Saint-Étienne. La Gueule Noire, c'est au 16 rue du Mont. Et puis donc on rappelle qu'on est une association et que donc n'importe qui peut adhérer à cette association, donc avec un minimum de 5 euros de participation, et que bien évidemment les personnes peuvent participer au projet de manière active, mais qu'on peut aussi juste soutenir l'association si voilà, s'il y a des personnes qui veulent juste le soutenir comme ça.
Cool.
Voilà.
Et bah c'est un beau projet en tout cas. Et bah continuez bien, merci beaucoup d'être venu en parler.
Merci à vous
de
nous avoir invités.
Et sans transition, on part au Kurdistan irakien avec Ellie Luve, Risk It All. Vous êtes toujours sur Lilith Martin et les autres avec Ellie Luv, chanteuse irakienne, kurde plutôt d'Irak, qui a fait ce morceau pour appeler un peu le peuple kurde à se défendre et à se battre. Du coup, vite fait, on va rappeler comme à chaque fois qu'on parle du peuple kurde, il est séparé entre quatre États, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Et en ce moment, avant, c'était plutôt les Kurdes de Turquie qui avaient le monopole de l'information. Mais en ce moment, c'est surtout la Syrie parce qu'ils sont en train de se battre contre l'État islamique que les Occidentaux veulent aussi anéantir. Et du coup, ce clip qu'elle a diffusé en février, a provoqué l'ire des islamistes irakiens, a eu 3 millions de vues sur YouTube parce que voilà, c'est elle chante un peu comme Shakira, Rihanna, un peu dans ce style-là. Elle est née en Irak, elle est partie en Finlande et après à Los Angeles. Du coup, on sent bien ce style-là. Mais sur son clip, on la voit avec les femmes de la résistance du PKK qui sont avec des Kalachnikovs et elle passe au milieu et du coup, elle circule dans les rues d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, pour appeler les enfants, les vieux à venir. Risquer tout pour ne pas se laisser abattre dans tous les sens du terme et c'est, le clip est vraiment super chouette et à la fin ça termine avec des drapeaux kurdes, des danses traditionnelles, voilà. Et du coup on a passé ce morceau parce que ça fait 3 semaines que la ville de Kobané se bat contre le Daesh ou l'État islamique. Et la ville de Kobané est à la frontière de la Syrie avec la Turquie et du coup il y a des manifestations un peu de partout en Europe, au Canada, en Iran, en Australie, en Afrique du Sud, en Afghanistan, en Turquie. La semaine dernière en fait ça a beaucoup été relayé dans les médias parce qu'il y a eu 40 morts en Turquie de la part de l'armée, de la police et des Turcs pro-Daesh qui tiraient à balles réelles les manifestants dans les rues pour soutenir qui les manifestants, eux, étaient des Kurdes qui soutenaient, en fait, la résistance à Kobané. Et du coup, je vais vous lire un petit texte qu'ont écrit des camarades kurdes et d'autres personnes qui veulent demain organiser une après-midi à la Maison de la Mésopotamie, du coup, 11 rue Mazagran, à la Guillotière, Lyon 7e, pour discuter de ce qui se passe à Rojava, ou le Kurdistan syrien et l'alternative. En fait, je vous ai quasiment tout dit en projet, en freestyle, du coup. Juste dans les 3 trucs qui rappellent, en fait, c'est que depuis le début du conflit syrien, en fait, en gros, quand il y a eu d'abord une révolution, puis après c'est devenu une guerre civile, à un moment donné, Bachar el-Assad, il a fait une sorte d'autonomie des Kurdes pour essayer de les manipuler pour se battre contre le reste de l'organisation de la résistance qui se formait contre l'armée syrienne. Du coup, en fait, à ce moment-là, les Kurdes en ont profité pour avoir une autonomie et ils sont dans la même mouvance que le PKK et le mouvement kurde en Turquie. Du coup, ils ont créé une armée qui s'appelle le YPJ pour les hommes et YPJ pour les femmes. Et eux, ils se sont battus en même temps contre les groupes djihadistes et contre l'armée syrienne pour l'autonomie de leur région. Alors elle est formée en 3 parties, en trois cantons, ce qu'ils essayent en fait de faire une alternative au modèle de l'État-nation. Et du coup, en novembre 2013, les représentants et représentantes kurdes, arabes, assyriennes, chaldéennes, turkmènes ont proclamé de facto un gouvernement d'autonomie démocratique au Rojava. Et du coup, en ce moment, la ville de Kobané, elle est un peu une ville centrale parce que du coup, elle est vraiment à la frontière de la Turquie. Et voilà, c'est aussi une sorte de destruction un peu de ce modèle qu'ils ont essayé de mener ces dernières années. Voilà, on continue avec un petit reportage que tu vas nous présenter. Je rappelle que si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe en ce moment au Kurdistan syrien, du coup à Rojava, c'est à la Maison de la Mésopotamie à 15h, 11 rue Mazagran, dans le 7e arrondissement de Lyon.
Demain,
samedi 18, demain après-midi.
Et on prend l'avion et on revient à Lyon. Et du coup, j'ai une petite question pour vous, Lyonnaises et Lyonnais. Avez-vous remarqué les affiches roses qui fleurissent depuis quelques mois au coin des rues dans les pentes de la Croix-Rousse ? Des rectangles sur lesquels sont écrits des noms de femmes célèbres, réelles ou de fiction ? Non ? Vous ne voyez pas ? Mais si, levez la tête et regardez bien. La rue de Radio Canut, par exemple, donc rue Sergent Blandan, a été rebaptisée rue Thelma et Louise. Et puis, un peu plus loin, il y a une nouvelle rue, la rue Théodora. Et si vous continuez, vous en verrez d'autres. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer les quatre justicières masquées qui collent secrètement ces affiches. J'ai passé une nuit avec elles, le micro dans une main, le seau de colle dans l'autre. Reportage.
Attends, c'était les coins surtout la dernière fois.
Ouais. T'en mettais devant, t'en mettais pas derrière.
Si. Ah non, t'en mettais derrière.
Voilà, tu vas te faire.
Oui, il était juste là en fait.
Ouais. Oui.
Et là, t'es plus haut.
Ah, bon, par contre, je sais pas si je suis allée assez haut.
Plus haut. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Ah, j'aurais
ouais,
dû monter pas mal. En fait.
Même avec le balai, chaque fois, tu sous-estimes la.
Mais non, parce qu'il faut qu'on la grandisse. Tu n'es pas en mode télescopique là. T'es trop petite.
Voilà, il est bien collé.
Ah, c'est ça.
Il y a des tensions là ou pas?
Ouais. Sur les gens, c'est pourquoi?
Bah, c'est pour rien.
Mais non, la rue vous plaît pas? Bah non, il nous plaît pas.
Lilith, Martine et les autres en reportage sauvage au cœur de la Croix-Rousse avec les colleuses d'affiches.
Réussir à me tenir.
Si.
Tu attends, je te.
Ah bah si. Pourquoi est-ce que tu montes alors qu'on n'a même pas décidé quel nom on mettait et
que... Parce que comme ça, je suis prête.
Parce que comme ça, je suis prête, tu te prends.
Bon, vas-y,
alors on met quoi oui, Mafalda, du coup.
Mafalda, ouais.
C'est vrai que
oui.
Je
allez, attends, vas-y. J'arrive. Tiens, allez, c'était logiquement la première.
Faites le guet parce qu'il y a, en fait, il y a un commissariat juste en face.
Non, il n'existe plus.
Oui, mais bon, ils sont partout, ces gens. Donc regardez juste un petit peu si tu peux me finir.
Non, mais pas grand-chose.
Alors, un petit coup de colle sur la fiche.
Vas-y.
Et la plus grande du groupe met la fiche.
Ouais,
est-ce que t'arrives à l'emplacement où ça y est?
Je suis pas sûre parce qu'en fait ça glisse un peu.
Mais si, t'es bien plus haut,
si.
Regarde. Ah non, mais descends.
Là, tu peux pas tomber.
Rue Mafalda.
Ah, c'est là que ça en disait un autre truc là-dessus.
Attends, mais je suis même pas sûre d'y arriver. Attends, Alba, pousse ça, je vais en foutre dans tes cheveux.
Ou alors, faut lui faire passer le balai.
Mais ça colle déjà.
En même temps,
attention.
Et on remet un petit coup de colle.
Parfait.
Ah, elle est bien là.
Elle est super.
Attends, il est beau, ce rouge. Oui.
C'est validé.
C'est une réalité maintenant. Fillette, héroïne, communiste, réfugiée, anticonformiste, curieuse, incrédule, déteste la soupe, raffole de la meringue.
Immortelle.
La primavera. Los colores. Las flores. Primavera es lo más publicitario que tiene la vida.
Esta es Mafalda. Y esta es mamá.
Est-ce que tu peux me raconter comment vous avez eu cette idée?
Ça a dû être une terrasse de café ou de bar, c'est sûr.
Non, moi je pense que c'était à Colbert.
Et on devait discuter. Enfin, en fait, on a déjà parlé. Il y a eu plusieurs projets sur la place des nombres de femmes dans les rues, la place des femmes, machin. Et on a dû rediscuter de ça un soir en disant ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas beaucoup. Et en disant ouais, Colbert, je sais plus qui c'est, mais c'est quand même pas terrible cette seconde place. Et on a dû reparler du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de noms de femmes et on cherchait des noms de femmes pendant, je pense, dans les pentes. Et on n'en a pas trouvé. Et donc on s'est dit, ça serait vraiment cool d'avoir une rue, je sais pas quoi. Et au fil de la discussion, on était nombreux ce soir-là. Il y a plein de noms. Et c'est pas qu'on manque d'idées pour des noms de femmes, quoi. C'est que juste voilà, ça, je sais pas si ça date d'une époque, on sait même pas trop d'où ça vient les mondrus, qui décide en fait. Je sais pas, ouais. Ça doit être les mères, machin.
Quand
ça,
et ça comme il y a des... beaucoup d'hommes qui décident, voilà. Forcément.
Mais en plus, les noms des plantes, c'est des vieux noms. Enfin, voilà, par exemple, ma rue, elle a changé de nom, mais elle est passée de Vieille Monnaie à René Leno, c'est pas, voilà, c'est pas révolutionnaire, quoi. Et du coup, alors, on se dit, bah, ça serait cool de le faire, et pour une fois, bah, allez, ça reste pas une idée de table de café. On prend notre liste, on l'écrit, et puis on les fait, quoi, ces fameux panneaux. Voilà. Mais ça a mis un bout de temps avant qu'on se motive vraiment à le faire, je pense.
Mais du coup, vous êtes combien du coup à faire à la base de ce projet?
Je pense qu'on est 4. Après, il y a plein de gens pour participer de manière informelle, parce que c'est la liste de noms qu'on trouve, c'est à chaque fois en discutant avec des gens, quoi. Ouais. Nous, on en a de nouveaux qui se disent, où on se dit, ah ouais, on n'a pas beaucoup de femmes étrangères, ou ah, on n'a pas beaucoup de, enfin, je sais pas, on n'a pas beaucoup de femmes anciennes, enfin, historiques, ou voilà. Ouais. Et en fait, dès que tu évoques ce projet, donc, ah, c'est vous qui faites ça, ou même avant, ah, ça serait cool d'avoir des noms de rue. Et en fait, des gens, ils ont des milliards d'idées, quoi. C'est pas du tout les idées qui manquent de noms de femmes. Et donc, on fait cette fameuse liste, voilà, comme on essaie de synthétiser. Et après, on avait choisi voilà, ceux qui nous avaient plu sur le moment, quoi.
Et donc, c'est des femmes réelles, enfin, qui ont existé, ou des femmes...
Il y a des personnages aussi. Des personnages de fiction, des femmes réelles. Ouais. Et c'est vraiment instinctif, en fait. Ça a été...
On voulait que ce soit un truc... aussi pas super sérieux non plus, quelque chose.
Oui.
Avoir des femmes, des personnages historiques importants, des politiciennes, des avocates, non. Mais aussi des personnages un peu symboliques, par exemple comme Lisa Simpson, on a fait la rue, bah, c'est ça qui est bien aussi.
Oui, elle représente quelque chose.
Ouais. Ouais. Et c'est tous les personnages qui ont... Ouais. Qui ont une importance dans leur,
voilà,
ouais,
dans leur représentation. Un personnage féministe très.
Il y a Fifi Barnaby. Il y en a qui ont été rapides, en fait. Et il y en a plein des personnages de fiction qui ont été rapides. Fifi Barnaby, Lisa Simpson, c'est les deux qu'on a fait pour l'instant. Ouais. Ils sont arrivés en tout premier, quoi. Ouais. Après, il y a plein de noms plus sérieux, plus marqués qu'on a voulu faire.
Ouais.
En fait, je pense qu'on s'est pas donné de règles, de choix. Enfin, c'est vraiment. On fait une liste et puis on en discute et on valide, enfin on se dit bon, ok, on en a assez, celle-là on est d'accord. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est quand on doit faire l'espèce de mini bio, là, les deux lignes où tu racontes ce qu'ils ont fait, où t'as vraiment pas de place, parce que moi j'essaye de faire entrer le texte.
Ouais.
Et en fait, souvent là tu te dis, ben voilà, soit ça veut dire quelque chose et c'est intéressant, soit pas trop et tant pis, quoi. Enfin, on les garde pour plus tard et peut-être qu'on les fera pas, quoi. C'est pas très graphique, c'est juste... Il y avait déjà des choses qui avaient été faites par des noms de... C'était une galerie qui avait mis des noms de rue un peu différents. Et c'est vrai que, du coup, tu te rends compte de l'appropriation aussi de... Ah, t'es pas rue... Il y avait une rue de la première fois, je me souviens de ça. Et ça reste un peu dans la mémoire. Et c'est des trucs qui n'étaient pas décollés si vite que ça. Et on s'était dit que c'était pas très compliqué à faire.
Oui, parce qu'en général, ça part vite, hein, quand même.
Ouais. Après, on sait pas trop. Il y a des endroits où tu sais que ça part très très vite parce qu'il y a un contrat, je sais pas quoi, en tag. Et il y a des endroits où c'est resté. Ouais. Bah, voilà, là, ça fait combien de temps, tu sais? C'était quoi la c'était un pont. C'était le pont de.
En avril.
Donc vous avez collé les affiches une nuit.
Une fois.
Ouais,
une fois.
En juin.
Donc là, c'est votre deuxième
fois. Je
suis étonnée que tout, enfin la plupart, plus de la moitié des affiches, elles sont.
Non, il ne reste pas autant que ça. Il ne reste plus. Hein.
Et cette nuit-là, du coup, vous n'avez pas eu de problème, vous n'avez pas eu peur, vous n'avez pas eu.
On a rencontré deux personnes. Une fille qui fait ah, c'est vous qui venez de coller.
Frida
Kahlo. En disant ah, c'est cool. Bon, voilà.
Mais
c'était un dimanche.
Positive un peu.
Et on a croisé un gars qui disait ouais, moi je suis architecte, vous pouvez pas coller sur la façade des gens, c'est pas possible, avec ça qui arrivait en moto, enfin complètement, et qui était un peu voilà, contre, enfin voilà, mais qui savait même pas ce qu'on allait coller, en fait c'était contre le fait de coller quelque chose sur sa façade. Je trouve ça complètement débile, enfin moi j'ai rien dit, mais pourtant en tant qu'architecte tu sais que coller un truc sur ta façade, puis la plaque on la met hein, de toute manière. Ouais. Bref, il voulait juste pas qu'on puisse détailler son truc. Il savait même pas ce qu'on collait, quoi. Et après, il y a des trucs qui sont décollés tout seul le lendemain aussi. Genre, ça a pas tenu. Le revêtement.
Votre recette de colle était.
Bah, ça a marché sur beaucoup d'endroits, mais il y a des endroits où ça a pas collé.
Après, quand il fait c'est noir et tout, des fois, c'est pas tout à mis assez de colle, je sais pas si ça va tenir.
Donc voilà. Et on a vraiment fait un parcours aléatoire, en fait. On est parti, on s'est dit, il y a les rues où on habitait. Qu'on avait envie d'avoir, voilà, Et après, on a fait nos rues de tous les jours, ou de nos endroits, là où on passe, là où on va. L'idée, c'était de pouvoir voir comment elles évoluent. Puis voilà, c'est un petit périmètre. Il n'y avait aucun lien entre les noms. Enfin, je ne sais même pas quel nom... Enfin, l'association du nom actuel par rapport au nom de famille...
Non, et ça, vous n'avez pas réfléchi à ça?
Non, du tout. C'est vraiment, on passe par là.
Une barre de spontanéité.
Ah ouais, non, mais c'est. Bon, on met quoi? Bon, bah, on met ça, ok, très bien. Genre, je sais qu'on avait plein de Rosa. On avait Rosa Parks et Rosa Luxembourg. Mmh. Et des Clara. On avait des séries de. Mmh. On n'avait pas fait
Clara,
exprès, en
c'est
fait.
King, on avait voilà. Clara, pardon.
Et en fait, il y a des Clara et des Rosa qui se sont suivies. C'était drôle. Enfin, je... des séries comme ça.
Et pour cette deuxième nuit de collage d'affiches, est-ce que vous avez réfléchi un peu plus au parcours?
Bah, ce qu'on se disait, c'est qu'on ne voudrait pas recoller sur des rues qu'on a déjà faites, en disant qu'elles ont leur nouvelle identité. Enfin, peut-être pas, quand même. Ouais.
Comme pour voilà. Recoller des noms qu'on a déjà collés qui sont peut-être partis.
Okay. Donc ça, vous allez recoller des voilà. choses.
Non, enfin, on n'a pas, le jeu de la dernière fois, on n'a que des nouvelles personnes.
Oui, mais pour éventuellement, plus tard, voilà. Recoller, mais que chaque rue, elle ait son nom.
Qu'elle garde son
nom. Voilà, chaque rue, on est pas un truc différent.
Et je pense que, enfin, sauf si on a une autre idée, mais pour l'instant, l'idée c'est de rester dans la spontanéité. On descend, enfin, plutôt de descendre des pentes, du coup, parce que la fin était montée histoire que ça se croise pas trop. Mmh. Et voilà. D'accord. Et on verra au fur et à mesure. Bon. Après, c'est aussi l'ambiance de genre, si là il risque d'avoir plus de monde, s'il y a de la lumière, s'il y a un de fond.
Il fait encore bon dehors.
Ouais, ça va.
Ouais. Et après, un truc auquel on a réfléchi aussi. C'est que ce qui est bien, enfin, jusqu'à maintenant, on a collé surtout des noms de personnes un peu connues, soit réel ou pareil, mais bon. On voudrait aussi mettre des noms qui soient moins connus, mm-hmm. justement pour que les gens ils le voient et ça leur fasse un peu découvrir
des personnages
qui sont importantes, mais qu'on ne connaît pas en fait pour.
Bah, parce qu'il y a des choses qui étaient un peu... Enfin, c'était pas des clichés, mais c'était des choses très connues, oui. Genre, Frida Kahlo, ou même, je sais plus... Enfin, il y a plein de noms qui commencent à ressortir. Par exemple, Rosa Parks, il y a déjà des lycées ou des collèges Rosa Parks, ça commence à... Voilà.
Oui, oui.
Là, il y a des choses un peu plus inconnues qu'on se dit, voilà, c'est intéressant de mettre en valeur ou de faire connaître, en tout cas, des nouveaux noms.
Des femmes actuelles qui mènent un combat, qui sont des activistes.
On a notre ligne directrice, mais c'est toujours de l'ordre de discussion complètement informelle. On n'a pas d'objectif plus que ça. Quand on se dit, ça serait intéressant. Voilà. Ouais.
Est-ce que vous aviez fait d'autres choses ensemble avant, toutes les quatre, ou le groupe s'est formé à partir de ce projet?
On faisait partie d'un collectif qui s'appelait 294 kilos. Ça mélangeait des gens de tous horizons, dont pas mal d'archi, pas mal de gens des beaux-arts, et on faisait des espèces d'interventions, d'installations dans l'espace public, et on a fait beaucoup de choses avec d'autres collectifs, genre des danseurs, des clowns, des choses comme ça. Mais c'était il y a moins deux ou trois ans. Voilà.
Et du coup, tu avais déjà une expérience d'intervention dans l'espace
public. Ouais, voilà, on aime bien faire. Mais c'est l'idée de faire quelque chose, enfin d'avoir une idée, d'aller jusqu'au bout du truc, sans avoir aucune subvention, aucun argent. Enfin, ce collectif, c'était complètement.
C'est par plaisir, quoi.
Voilà, c'est. Puis on était pas mal à être. D'être un peu frustrés de tout le long de nos études. On n'avait pas fait. Enfin, pas fait. Être allé au bout de ton idée, quoi. Donc.
Et par rapport à justement cette envie de faire, de donner un peu la, enfin plus de place aux femmes, comment vous vous situez par rapport à ça?
Bah, je pense que je ne veux pas parler pour les autres, mais on a quand même tout un fond de bonne base féministe ancrée. Après, tout avec nos particularités, quoi. Je pense qu'on est, c'est aussi ça qui nous a réunis, c'est qu'on était d'accord là-dessus et qu'il y avait, il y avait plein de choses avec qui on n'avait pas besoin d'en discuter. Et quand on a discuté avec d'autres gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, après, ça, c'est parti sur oui, mais dans ces cas-là, si on met des femmes, et l'égalité, et toute la base du féminisme, sachant que ça peut être des discussions
interminables
et alcoolisées, qui ne sont pas forcément très constructives. mais là-dessus, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, et c'est aussi ça qui a fait marche. Enfin, tu me dis si...
Oui.
Je pense que c'est ça, en fait. Pas non plus un acte politique ou quoi que ce soit. Oui. Ça l'est quelque part, si tu penses à... Mais c'était vraiment...
Oui, ça reste un peu pour notre quartier. On habite là, on a envie que ce soit comme ça. Et...
C'est un acte local.
Ouais,
c'est local, même si, bon, après...
Ça prend l'ampleur que ça prend, mais...
Bon,
Ah, vous avez vu votre petit buzz sur internet.
Ouais, mais j'ai, enfin moi j'étais sûre, puis c'était vraiment, enfin j'avais pas du tout pensé à ça quoi. L'idée c'était de dire voilà, on fait, on va au bout de notre idée, on fait ça dans notre quartier, on verra bien
ce que ça donne.
Et puis en fait même ce que ça donne, c'était pas du tout ça le but quoi. Enfin du coup moi ça m'a plus surprise qu'autre chose. Et après voilà, on était tout de suite, enfin c'était très, ça a été très simple parce que le panneau de rue c'est un objet qui est ultra simple. Enfin moi j'ai fabriqué le panneau, en fait c'est un cadre à fond, un carré blanc avec les petits coins arrondis. Et les noms quoi, enfin donc c'est un truc qui est très, enfin il y a aucune création dedans. On a juste choisi le rose et voilà, il était important de choisir un bon rose parce que au cas où quand même le message de dire bon les panneaux sont bleus donc on va aller jusqu'au bout du cliché faisant des panneaux roses.
C'est ça.
Au cas où si les gens ne comprenaient pas en fait, il fallait faire un message clair.
C'est ça, simple, efficace.
Mais sinon c'est rien en fait, c'est juste choisir des noms, écrire cette bio qui prend deux lignes, trouver les dates. Du coup moi j'ai quand même découvert plein de trucs, enfin c'est assez drôle. Et je crois qu'on n'a jamais fait de réunion, enfin genre on s'est toujours croisés, ça n'a jamais été organisé quoi. Ouais. À part les dates de collage, on s'est dit bon bah on le fait ce soir et il fallait qu'on s'organise et qu'on achète de la farine. globalement, c'est tout quoi.
Gros coup.
Voilà. Mais ouais, c'est tout. C'est, je pense qu'on n'a jamais, on a jamais fait.
Au fur et à mesure très.
Ouais.
Et du coup, votre petit groupe de 4, est-ce que vous vous êtes dit ok, on peut se donner un petit nom, ou est-ce que vous êtes anonyme,
Je pense qu'on est plutôt anonyme.
On est plutôt anonyme. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu l'intérêt aussi de ce projet, c'est rester un peu.
C'est pas mal. On ne sait pas qui est derrière.
On sait pas.
Moi, je sais, mais vous ne serez pas auditeur.
Voilà.
Il faudra rajouter nos voix d'ailleurs.
Moi, j'aime bien demander des fois les gens qui me disent ah ouais, t'as vu ça, ouais, c'est trop cool. Hein.
Tu fais la naïve.
Voilà. Tu sais qui c'est qui a pu faire ça? Non.
Mais je trouve ça génial, par
contre. Voilà, c'est bien.
Et, mais souvent, quand on dit aux gens, ouais, c'est nous, ils font ah, et pourquoi vous avez pas fait la rue machin truc? Ou alors, ça déclenche ces fameuses discussions. Au bout d'un moment, tu sors le carnet, tu fais bon, alors je note.
Et donc, c'est ça, vous avez un petit carnet, je peux
regarder. C'est moi qui ai pris pas mal de notes, mais après, on se fait pas mal passer.
Petit canal rue de la Sérigraphie.
Oui, voilà.
Plan hyper secret.
Oui, c'est ça.
Je pense que je suis tombée sur la bonne page.
Oui, c'est ça.
Fifi Bardassier, Fifi ne ment pas, elle invente. C'est drôle.
Alors, c'est cool. Fifi, c'est dommage parce qu'on était toutes très émues avec Fifi, mais ça a été enlevé assez
tout de suite.
Ouais.
Il faut la remettre.
Il faut qu'on la remette.
Une petite attache de rousseur.
C'est la dernière fois en fait.
Ah, mais il en restait.
Et ouais. Mais c'est des doubles. Marjane sauce rapide, on l'a collé.
Rosaline, il en restait encore.
Mais en fait, c'est parce qu'on a fait trois de chaque.
Mais peut-être qu'on peut poser celles-ci alors, si elles sont parties.
Ouais, mais normalement, on en a plein d'autres temps. Mais ça, c'est, on peut les recoller. Mais tu sais où c'était, Marjane?
On va faire avec des prochaines. Ouais.
Attends. Heureusement, nous avons noté.
Ah ouais,
mais ça, c'est rue de la Nocienne, Marjane Sotrapi. C'est celle qui n'a pas collé,
en fait. C'est pas celle qui a été enlevée le lendemain, enfin,
Je crois que c'est entre les deux. Ça collait pas et vu que ça pendouillait, ça a été enlevé.
Je me souviens. À cette époque, je menais une vie tranquille et sans histoire. Une vie de petite fille. J'adorais les frites avec du ketchup. Bruce Lee était mon héros préféré. Je portais des Adidas et j'avais deux grandes obsessions. Pouvoir me raser un jour les jambes et devenir le dernier prophète de la galaxie.
la pochette verte.
Alors là, tu es en train de faire la colle.
Attends,
ouais. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe?
Alors, c'est hyper classique. On n'a rien inventé. Tu mets, c'est de la colle bio. Tu mets une dose d'eau, une dose de farine, une cuillère de sucre. Tu laisses chauffer et t'évites de faire des grumeaux comme je suis en train de faire normalement. Parce que tu remues tout le temps en même temps.
Attention, t'es loin du feu là.
Ouais, mais justement, ça chauffait trop, c'est pour ça que je fais des grumeaux en fait. Je
l'ai baissé, mais il est un peu fort. Sinon, faut le mettre au-dessus.
Il est un peu plus fort que ce que je pensais.
Et toi, avant, t'avais déjà collé des affiches? Ou des choses?
Ouais, des pochoirs. Mais genre pochoir unique. Donc, tu fais une toute petite dose. Et là, quand je me suis retrouvée à faire de la grande dose de colleuse d'affiches, j'ai pas fait la même idée. Parce que là, c'est la dose industrielle. On se ramène carrément avec notre seau. Les 343.
Ah ouais.
Comment vous l'avez choisi celui-là?
Je sais pas, je sais plus qui c'est qui a eu l'idée de 343
salopes.
Ah, c'était Romain, ouais. On a des conseils de tout le monde. À partir du moment où tu dis aux gens que tu fais ça, tout le monde a son idée. Faut absolument que tu mettes celle-ci.
Ça, j'en ai bien. C'était Romain après la première session.
Allez. Pardon. C'est bon.
Alors, attends, quelle hauteur à peu près tu vas réussir à faire en dessous de.
Moi, j'ai réussi à faire au-dessus.
Alors là, je vais avoir besoin d'aide, je suis trop petite. Ah, quoique.
Ouais, c'est bon. Si t'arrives à coller en haut, moi j'arrive à faire.
Donc la rue Jean-Baptiste Sève va être rebaptisée rue des 343
salopes. Un petit coup de colle au passage.
Je voulais savoir qui c'est Jean-Baptiste Sève.
C'est un économiste.
Très content. Ah, sympa. Monte à droite.
Vas-y,
attends.
Vas-y, mais je vais monter avec le balai moi.
C'est bon. Là, c'est bon.
Là, t'es bien.
Mais est-ce qu'en bas c'est droit?
Non, monte à droite, Alba.
Moi je le vois à droite ici.
C'est
comme
ça.
Le tableau, il est droit ou pas?
Parfait. 343 françaises, célèbres ou inconnues, qui ont signé le manifeste « Je me suis fait avorter » du 5 avril
1971. Pour demander la dépénalisation de
l'avortement.
Trop de colle là.
Non, mais ça sèche, t'en prie.
J'ai découvert justement en faisant la mini bio que c'est même pas. À la base, ça s'appelait même pas comme ça. C'est un surnom qui leur a été donné pour se foutre de leur gueule.
Ah ouais. Et du coup, elles l'ont repris en mode ouais, bah ouais, on est des salopes.
Et du coup, ils ont signé ce manifeste sous ce nom.
À la base, le manifeste, c'est juste le manifeste je déclare avoir avorté, mais il n'y avait pas le mot salope.
Ah oui, c'est vrai.
Je crois que c'était, c'était une du canard enchaîné ou d'un truc comme ça, tu vois.
Nous sommes en automne 1972. On se voit peu. J'ai pris mes distances. J'attends un enfant. Je vois à la télévision le procès de Bobigny, durant lequel Gisèle Halimi défend une jeune fille, Marie-Claire, et sa mère, Michèle, accusée d'avortement clandestin. Marie-Claire a 16 ans. Elle s'était fait avorter à la suite d'un viol. J'espère que tu regardes aussi la télévision. Que ces images te touchent.
Ah oui, Justine, c'est vraiment pas arrêté.
Elle m'a fait arrêter, acquittée,
car on estime qu'elle n'avait pas délibérément choisi de commettre ce délit alors qu'elle l'a reconnu.
On reparle du manifeste des 343 femmes, dont certaines très connues, comme Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Françoise Sagan, Ariane Mouchkine, Anne Wiaszewski, Agnès Varda, Nadine Trintignant, Jeanne Moreau, Delphine Seyrig, Catherine Deneuve, Micheline Prel, Stéphane Audran, Bernadette Lafont, Marie-France Pizier, Bulle Ogier, Brigitte Fontaine, déclarent en avril 1971 avoir avorté et réclament le libre accès aux moyens anticonceptionnels et à l'avortement libre et gratuit. Elles reprennent à leur compte le terme de salope employé ironiquement par l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo pour saluer leur geste. Je rajoute mon nom au manifeste des 343 salopes. We'll be right back.
fiche, tu la mets là, et après tu la pends.
Oui, mais là, elle est
morte.
Elle
a raison, elle a raison.
Faut
non, mais il faut faire comme ça.
Faut le mettre sur le balai.
Faut le mettre sur le balai, parce que sinon.
Non, non, là, il est à moitié.
Donne-moi ton affiche.
Ah, c'est bon, on est bon. On est presque, on est presque. Elle est pas droite du tout.
Hein. Non, ma fille, vous n'avez pas été militante. C'est impossible. C'est je sors. On n'est pas droite, les filles. Alors ça, c'est un euphémisme.
Ah oui,
on n'est pas droite, les filles.
Ne
la décolle pas, tu vas faire pire.
C'est
qui, les filles?
Bon, là, on... Non, mais ah, on en a collé plein d'autres. Elles sont parfaites. Et
les chiens dans les rues, les astres sont les bijoux d'or. Oubliez Castafiore. Les buildings sont des petits cons, pleins de croûtons et de lardons. Et les magasins sont des forges, tenus par Saint-Jean et Saint-Georges.
Genre, ils nous regardent bizarrement, genre, qu'est-ce qu'elles font? Non, c'est quoi là, qu'elles font, là, qu'elles fabriquent?
Fanny, elle a dit,
ouais. Ouais, ça fait beaucoup, mais si on colle pas tout aujourd'hui, c'est pas grave. Si?
Non, c'est pas grave, bon, c'est très bien d'en coller pas mal.
Quoi. C'est le défi, tout en une nuit.
Ouais, voilà. Ouais,
ça fait beaucoup de noms. Mais...
Expliquez-nous ce que c'est.
Alors, c'est des colleuses d'affiches qui rebaptisent les rues avec des prénoms de femmes. Donc la rue Donnet va être rebaptisée en Simone de Beauvoir. On a choisi une petite rue pour une grande dame.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définissent la femme en tant que telle.
C'était le reportage collage de Lilith Martin et les autres. Merci aux justicières masquées qui m'ont inclus dans leurs petites aventures nocturnes.
Et Lilith Martin et les autres, c'est fini. On vous rappelle juste que dans 2 semaines, ce sera le 2e volet de notre trilogie Coup de poing avec une émission sur la boxe. Et là, on va vous laisser avec un son qui a été fait lors des Radios Rageuses, donc nos rencontres féministes qui ont eu lieu la semaine dernière. C'est contre le programme Moss Mayo Room, qui est un programme de flicage des migrants et des migrantes partout en Europe. Donc en fait, il y a des gens qui s'organisent pour essayer de recenser ce qui va se passer par rapport à ce programme. Si vous avez des infos par rapport à ça, il faut se connecter au site suivant, map.nadir.org. Alors, Ushahidi, U-S-H-A-H-I-D-I, c'est pratique pour la radio ça, merci. Donc voilà, on vous laisse avec ce son qui est en plusieurs langues et qui a été fait pendant les Radios Rageuses la semaine dernière. Et après, ce sera Dancehall Social Club. Merci. Salut.
Avertissement, attenzione.
Tandil,
Erlen.
Achtung, Reisewarnung.
Warning.
Dikat, Seyat, Oyarese.
Attention.
Du lundi 13 au dimanche 26 octobre 2014, l'Union européenne va mettre en place une très grosse opération policière nommée Moss Maiorum visant les sans-papiers. Pendant 2 semaines, 18 000 policiers vont pourchasser les personnes sans-papiers pour en arrêter le plus possible. Les contrôles auront lieu dans la rue, les trains, les gares, les aéroports, les autoroutes et aux frontières internes européennes partout en Europe. Les objectifs sont d'arrêter un maximum de personnes, d'identifier les routes et moyens utilisés pour venir et ainsi empêcher les migrants et migrantes d'arriver en Europe. Prévenez dès à présent toutes les personnes que vous connaissez, résidents ou en transit en Europe ou qui prévoient de venir à cette période. Soyons solidaires en essayant d'empêcher la mise en place des contrôles si on en est témoin, soit en les rendant visibles par des protestations, soit en avertissant discrètement les personnes en amont du dispositif et en les aidant à y échapper. Montrer sa désapprobation lorsqu'on assiste à l'opération, ne serait-ce qu'en s'arrêtant et regardant, peut gêner le contrôle. Faisons le maximum pour que cette opération soit un échec. Soyons solidaires de toutes celles et ceux que ces États veulent empêcher de circuler librement.
Onuç 26 Ekim tarihleri arasında tüm Avrupa Birliği'nde polis tarafından Moss Maiorum adlı bir operasyon gerçekleştirilecektir. Bu iki hafta boyunca 18 bin polis Frontex ile yakın işbirliği içinde oturum izni olmayan yabancıları avlamakla görevlendirilmiştir. Amaçları göçlülerimizi ortaya çıkarıp aramızdan olabildiğince fazla kişiyi tutuklamaktır. Lütfen evrakları olmayan herkesi uyarın. Özellikle trenlerde, istasyonlarda, havalimanlarında, otobanlarla ve Avrupa içindeki gümrük kapılarında yoğun kontroller beklenmektedir. Avrupa Kalesi'ne karşı el ele. Hiçbir insan kanun dışı değildir.
انطلاقا من يوم الاثنين 13 أكتوبر وإلى غاية يوم الأحد 26 أكتوبر 2014 يقوم الاتحاد الأوروبي بعملية بوليسية ضخمة اسمها موس مايوروم تستهدف المهاجرين الغير شرعيين. خلال هذين الأسبوعين سيطارد 18 ألف بوليسي المهاجرين الغير شرعيين بغاية توقيف أكبر عدد منهم في الشوارع والقطارات والمحطات والمطارات والطرق السيارة وعلى الحدود الأوروبية الداخلية والخارجية. غايتهم الوحيدة إيقاف أكبر عدد من المهاجرين وكشف سبل عبورهم لمنعهم من المجيء إلى أوروبا. يجب علينا فتح هذه العملية بإعلام كل من يعنيه الأمر من مهاجرين وعابرين من الآن، لنتضامن بمحاولة منع المراقبة بالإعلام أو بتحذير الأشخاص المستهدفين قبل ابتداء العملية وبمساعدتهم على تفادي التوقيف. لنحاول إفشال هذه العملية بما أمكننا، لنكون متضامنين مع كل من تحاول هذه الدول حرمانه من حرية التنقل والحياة. لا للحدود، لا للدول، لا للطرد.
Europa, operación policial en larga escala contra inmigrantes. Atención. Una operación policial establecida por la Unión Europea denominada Mos Maiorum. Terra lugar de 13 de octubre de 2014, segunda feira, a 26 de octubre de 2014, domingo. Durante esas dos semanas, 18.000 policías andaron a casa de las personas sin papeles. Queremos saber los caminos y las rutas de inmigración, además de detener a mayor cantidad de personas posible. Adviertan todas los sin papeles. Los controles tendrán lugar en los trenes, estaciones, autoestradas, aeropuertos y en las fronteras internas europeas. Contra Fortaleza Europa, ningún es ilegal.